Je repasse la parole.
Du coup, oui, effectivement, j'avais envie de ça parce que c'est pour moi extrêmement important parce que au-delà du simple fait de dénoncer une situation ou un acte administratif ou un mode de répression, j'avais envie de le replacer dans un contexte historique. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je suis intervenu plusieurs fois un peu dans... Il y a eu des banquets contre l'état d'urgence qui ont été organisés à Paris aussi, ou des interventions que j'ai fait à Nantes ou à d'autres endroits. J'ai essayé de remettre un peu les choses en contexte historique parce que je pense que c'est très important pour comprendre les logiques sécuritaires et remettre cet état d'urgence particulier au-delà d'une réaction un peu épidermique à l'attentat, aux attentats qu'il y a eu, et replacer vraiment dans une logique sécuritaire qui en fait n'est pas nouvelle. Du coup, je voulais rappeler quand même quelques éléments historiques. Donc déjà, comme tout le monde sait maintenant, cet état d'urgence, il a été un peu inventé et appliqué pour la première fois en avril 55, et sous l'égide de Michel Debré. Ça, c'est aussi intéressant de se souvenir, parce que je le dirai après, mais en tout cas, ça commence en 1955, en plein contexte de guerre d'Algérie. Et ce dispositif-là, il a été pensé comme une manière de s'opposer à l'émergence du FLN, qui, à ce moment-là, vraiment commencé à combattre l'État français de manière radicale, aussi bien en Algérie, mais un peu plus tard aussi en métropole. Et du coup, ce dispositif-là, il a été pensé pour transformer ce qui, normalement, aurait dû être une guerre, en fait, une guerre de décolonisation, comme c'en était une, en une opération policière. Et c'est un peu ce qui s'est passé beaucoup plus tard en Tchétchénie, et ce que Poutine a initié en Tchétchénie, c'est transformer une guerre en opération de police. Et l'objectif de cet état d'urgence, c'était vraiment ça. C'était de commencer à trouver des manières, et il y en a eu beaucoup d'autres dans le cadre de la guerre contre-insurrectionnelle, pour transformer en fait une guerre en conflit policier. Et du coup, c'est très intéressant de se souvenir que du coup, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de nier aux combattants du FLN leur statut de combattant, et donc de les faire bénéficier de la Convention de Genève en faisant simplement des terroristes qui devaient faire l'objet de mesures policières. Et donc c'est ça un peu l'origine de l'état d'urgence, c'est vraiment défendre une logique coloniale et empêcher la décolonisation de l'Algérie. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de voir un peu la progression, dans quel contexte ça a été utilisé. Et ça a été utilisé plusieurs fois. Donc ça a été mis en place en 1955, mais aussi une deuxième fois en 1960, juste avant l'insurrection populaire algérienne de décembre, qui a été particulièrement virulente et dans laquelle s'est investie toute une partie du peuple algérien. Et ce qui a changé le 15 avril 1960, c'est que cet état d'urgence qui était au départ une loi devient un décret, c'est-à-dire qu'il est applicable par décret. C'est-à-dire que de manière beaucoup plus expéditive, on peut décréter un état d'urgence de manière assez rapide. Et après, jusqu'en 2005, l'état d'urgence il a été appliqué 4 fois. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que pendant ces 4 fois, ça a été en 55 pour 8 mois en Algérie, pour combattre les militants du FLN, en 58 pour 2 semaines en métropole suite au coup d'État du 13 mai à Alger, en 62 pour 1 an en métropole suite au putsch des généraux à Alger, et en 84 pour 6 mois en Nouvelle-Calédonie suite à la révolte des mouvements indépendants Kanak. Donc c'est que des contextes coloniaux, et c'est que lié en fait aux guerres de décolonisation et de tous ces à côté, parce qu'effectivement il y a le putsch des généraux, c'est pas orienté contre les militants du FLN, mais pour garder la maîtrise en fait, de ce qui se passait dans les colonies françaises, aussi bien du point de vue des généraux dissidents qui voulaient faire un putsch contre le général de Gaulle. Et ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que c'est aussi dans un contexte où on essaye, à tous les points de vue, de contrôler les Algériens qui se battent en Algérie, mais aussi les Algériens qui sont en métropole. Et c'est à ce moment-là que les gouvernements qui sont, à ce moment-là, il faut le rappeler aussi, socialistes ou de la gauche radicale, commence à mettre en place des dispositifs comme ce qu'on a appelé les centres, les centres d'internement. C'était les centres, je ne sais plus, les CARS, qui étaient prévus pour les assignés à résidence, justement. Pour les assignés à résidence, et qui ont concerné plus de... Il y a eu 24 000 personnes en métropole française qui ont été concernées par ces centres, que des centres d'internement et de transit, dans lesquels le gouvernement du Mocquet, je crois, à l'époque... En tout cas, les gouvernements de l'époque, et notamment en 58, le gouvernement qui était à l'époque le garde des Sceaux, c'était François Mitterrand, donc c'est lui qui a instauré ces centres pour les assignés à résidence. Il y a 24 000 personnes qui sont passées par ces centres, essentiellement des Algériens de la métropole. Donc c'est un premier dispositif qui laisse présager un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup plus tard. Ensuite, il y a aussi un élément que moi je rappelle souvent, parce que ça explique un petit peu comment ce dispositif peut s'inscrire dans une logique plus large, sécuritaire plus large, c'est le 20 janvier 55, avec une réforme qui passe inaperçue, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'on l'a oublié, mais qui fusionne la police d'Algérie avec la police de Paris. Et il y a une fusion des polices, c'est-à-dire que la police d'Algérie passe sous l'administration de la police de Paris. Et qu'est-ce que ça implique dans les faits? C'est que cette décision, elle est prise d'une certaine manière pour rapatrier un certain nombre de fonctionnaires de police de la métropole, de l'Algérie française, vers la métropole. Et du coup, il y a 200 agents soupçonnés notamment de torture en Algérie qui sont rapatriés vers la métropole et qui intègrent le service des affaires techniques de la préfecture de Paris. Pourquoi c'est intéressant? Parce que toutes ces personnes-là, ces fonctionnaires de police qui ont agi et qui ont notamment torturé ou appliqué des techniques de guerre contre inspection en Algérie, sont reversés dans les services de police français et notamment dans les nouvelles brigades, notamment les brigades des agressions et des violences ou des brigades de sécurisation de nuit qui sont ni plus ni moins les ancêtres de la BAC. Ces brigades qui ont changé de nom au fur et à mesure des années ont été investies après les années 50-60 par des anciens fonctionnaires de l'Algérie française qui étaient imprégnés d'un amour pour l'Algérie française, on va dire ça comme ça, proche de l'OAS et des réseaux qu'on connaît bien, qui ont combattu pour l'Algérie française. Donc ça permet de comprendre que petit à petit, en fait, cette contre-insurrection a été reversée dans le maintien de l'ordre à la française, et aujourd'hui il y a un véritable héritage qui est aussi revendiqué par une partie des théoriciens du maintien de l'ordre. Il y a une revendication de ces techniques-là qui a été reprise, qui a été édulcorée, transformée, mais reprise, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de techniques, le quadrillage, par exemple les techniques d'encagement de manifestation ou les perquisitions administratives, etc., c'est des choses qui ont été à l'époque, en tout cas, expérimentées beaucoup en Algérie, notamment pendant la bataille d'Alger en 57, je crois, et qui ont été théorisées par des personnes comme Roger Trinquier ou des personnes, des théoriciens en fait militaires qui ont écrit la guerre moderne, ou la guerre contre-insurrectionnelle, ou la guerre contre-révolutionnaire, et qui ont aussi, durant les années 60-70, ont donné des cours en fait, ont donné des cours dans les écoles militaires et policières du monde entier, notamment des États-Unis, du Brésil, de l'Argentine, du Chili, des Philippines et un certain nombre de pays qui après on sait ce qui s'est passé là-bas. Et du coup, notamment la guerre d'Algérie, le dispositif de protection urbaine qui a été mis en place là-bas et qui regroupe un certain nombre de mesures administratives et policières a été repris dans le temps et il est toujours resté dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur et des théoriciens de la police, et il a été plus ou moins ressorti après être passé par les États-Unis et avoir été un peu influencé par les doctrines de maintien de l'ordre américaines, c'est ce qu'ils appellent le contrôle des foules, le contrôle démocratique des foules. Il a été repris par des personnes comme Alan Bauer. Il y a un livre là-bas qui est extrêmement intéressant de Mathieu Rigouste qui s'appelle « Des marchands de peur » et qui explique comment des personnages, des criminologues et des experts en sécurité comme Alain Bauer ou Xavier Hofer ont repris toute cette espèce de background sécuritaire et l'ont reversé dans des théorisations du maintien de l'ordre à la française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et toujours, et depuis toujours, la police française et ses officiers et les responsables de la police française sont influencés par cette histoire, en fait, par cette histoire policière cette histoire policière qui est une histoire anticoloniale, coloniale, pardon. Et ça explique en fait de manière assez, assez simple les logiques qui peuvent sous-tendre ce qu'on voit notamment avec en 2005 la réutilisation de l'état d'urgence dans les banlieues françaises pour mater ni plus ni moins une révolte assez spontanée des jeunes des quartiers qui ne supportent plus la situation qui leur est faite dans leur lieu de vie, l'utilisation de ce dispositif spécifique de l'état d'urgence et de tout ce qui va avec, parce que 2005-2007, avec Villiers-le-Bel et Clichy-sous-Bois et toutes les banlieues où ça s'est un peu enflammé, toutes les techniques qui ont été utilisées sont directement inspirées de ça, avec des quadrillages de quartiers, avec fermeture des quartiers, fouille systématique des immeubles, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la bataille d'Alger. Alors évidemment, on ne torture pas des gens et on n'en tue pas, mais les techniques restent ni plus ni moins les mêmes. Et du coup, on a vraiment dans la police française, et ça c'est très difficile de l'attester, et aussi les gens qui rédigent les notes blanches, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont assez nostalgiques de cette pensée policière. Il y a des gens qui partent du principe qu'un délinquant, et c'est la grande doctrine du maintien de l'ordre américain, qui s'appelle la théorie de la vitrine brisée, qui part du principe que quand tu casses une vitre, tu as déjà commis un acte qui t'amène petit à petit, qui laisse présager qu'un délinquant peut potentiellement devenir un terroriste, puisque tu rentres dans un processus d'aggravation, en fait, assez logique. Et du coup, ça nous amène, en fait, ça amène ces gens-là à faire des raccourcis extrêmement dangereux et simplistes, et qui amènent des gens, des militants, qu'ils soient radicaux ou non, ou qui peut-être souvent radicaux, je ne sais pas, mais en tout cas pas seulement, comme on le voit dernièrement, à être assimilés à des terroristes, parce que des gens qui sont potentiellement peuvent revendiquer des actes violents, et avec toute l'histoire aussi de la lutte armée, des années de plomb, et de ce qu'ont pu commettre les groupes armés révolutionnaires des années 70, l'extrême gauche des années 70, une idée que de toute façon toute personne qui conteste l'autorité de l'État, consciemment ou inconsciemment, peut potentiellement devenir un terroriste, et donc ça laisse. C'est pour ça aussi que dans la logique de renseignement, il y a cette idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est tout ce qui est théorisé aussi dans le maintien de l'ordre à l'américaine, je finirai bientôt là-dessus. C'est ce qu'on appelle la prévention situationnelle, où c'est des concepts dans lesquels la police de plus en plus va vers l'utilisation des services de renseignement. C'est-à-dire qu'on ne va pas mater quelqu'un en fonction du délit qu'il a commis, on ne va pas le juger pour un délit qu'il a commis, mais on va le préjuger à partir de ce qu'il va potentiellement commettre. Et toute la logique du maintien de l'ordre aujourd'hui, elle est dans cette optique-là. On l'a vu sur le mouvement de travail dernièrement, la loi travail. Tout ce qui est pensé pour empêcher les manifestations, avec les fouilles systématiques, les interdictions d'accéder à certains points, les visites à domicile, les perquisitions, les interdictions de manif, etc., etc., on n'est que dans la supposition de ce que les gens pourraient commettre. Et à partir de là, sur la dernière manif, ça a été particulièrement éloquent, on voit des policiers, des hordes de policiers fouiller intégralement toutes les personnes qui vont aux manifestations, en leur enlevant un masque de piscine, tous les foulards qui ont été mis sur un arbre. Les policiers ont fait enlever tous les foulards et écharpes à tous les gens qui venaient, et tu vois que les trois quarts des écharpes sont colorées, en fait. Ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer, ce n'était pas un arbre tout noir, c'était un arbre plein d'écharpes colorées, et enlever le liquide physiologique, les masques de respiration, et tout un certain nombre de choses qui laissent juste supposer que les gens veulent un minimum se protéger ou se soigner des gaz, mais en tout cas qui... tout ça pour dire que toutes les logiques aujourd'hui tendent vers ça. Et moi j'ai l'impression que c'est très difficile de faire ce lien et de le rendre visible. Là, je fais un raccourci autant que je peux. J'ai l'impression qu'on doit vraiment s'inquiéter de ça, et j'aimerais qu'on puisse arriver à des débats sur ces questionnements-là. C'est comment cet état d'urgence résulte en fait d'une pensée policière qui n'est pas particulièrement liée à l'antiterrorisme, mais à une vision du monde futur et de la manière dont l'État doit gérer tous les désordres. Potentiel ou réel de manière préemptive.
Il y a un truc à ajouter aussi, c'est que de toute façon, quand on veut restreindre une liberté, on commence toujours par les salauds. Il y a toujours le fichage génétique, c'est d'avoir vu, c'était pour les pédophiles. Et en 97, vous avez promis, juré et craché, que ça restera toujours. Pour des infractions extrêmement graves que personne ne peut défendre par ailleurs, qui sont une infraction de nature sexuelle envers des enfants. Et évidemment, petit à petit, on y fait rentrer la bande organisée, et derrière la bande organisée, on a plus au droit commun, et y compris des militants, quoi, avec des dégradations que peuvent connaître les militants, etc., etc. Et de la même manière, c'est assez fort, on commence par les terroristes, on dira, c'est le genre pour concerner les terroristes, et puis petit à petit, et là, on va faire rentrer un peu tout le monde. Et il y a des méthodes qui viennent des renseignements généraux, qui passent à l'antiterroriste, qui passent à la bande organisée, qui pensent, après, ça va concerner les gros trafics de stupes et les proxénètes, et après, petit à petit, on va arriver au droit commun et au petit délinquant de droit commun, parce que finalement, tout le monde va rentrer dedans. C'est toujours comme ça que ça se passe. On commence toujours par les salauds. On va toujours justifier une restriction des libertés parce que ça concerne que les salauds et qu'il n'y a pas grand monde qui va se lever pour les défendre. Alors que voilà, la liberté et les principes fondamentaux qui ont fait les choses, mais voilà, ça commence toujours comme ça. C'est toujours le même schéma depuis des années qu'on connaît bien. Voilà. Je ne sais pas si on y croit quelqu'un.
Ça
plombe,
hein?
Oui, bon. C'est pour ça qu'on va beaucoup.
On a discuté tout à l'heure et c'est ce qui me restait. Peut-être ici à la campagne, on ne le pressent pas tellement, mais toi tu as raconté de Paris que c'est vraiment une autre ambiance. Tu vas sur une manif, et j'aimerais bien que tu racontes un peu comment ça se passe aujourd'hui quand tu vas manifester à Paris.
Les photos vont bien.
Il
n'a
plus le droit d'y aller.
Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Non, depuis le mois de mars, je suis interdit de manif et j'ai été interdit ensuite de Paris tout court parce que c'était plus simple pour m'empêcher d'y aller. Mais en tout cas, on va dire que j'ai eu le temps de percevoir un certain nombre de choses sur ce qui se passe dans les manifs. Et en tout cas, je suis entouré de beaucoup de gens qui continuent d'y aller et qui... je vais vous avouer une chose, on a parlé pour la première fois il y a 2 semaines, réellement, on a partagé notre peur, en fait. Et ça, c'est un peu, ça m'emmerde un peu, excusez-moi du propos, mais... Parce qu'en fait, je pensais qu'on était plus fort que ça et qu'on ne céderait jamais à la peur. Et nos slogans souvent disent ça, non, on n'a pas peur. Mais en réalité, ce qui a changé depuis quelques mois, c'est qu'on a peur. Et à Paris, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais nous, en tout cas, à Paris, on est un certain nombre à se dire, mais en fait, il se passe des choses qu'on n'a jamais vues précédemment dans toutes ces manifs. Et même la manière dont je me suis fait arrêter, moi, 2 fois au début du mouvement, ce qui implique en fait mon interdiction de manif et tout ça, c'est un arbitraire total. Alors c'est un peu difficile, après le premier, on se dit, bon, il s'est arrêté une fois, puis une deuxième fois, c'est bien qu'il a dû faire des conneries, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup de monde qui est dans ce cas-là. Et les interdictions de manif qui ont été données, comme ça, à porte-pièce, à des 150, 200 personnes, sous prétexte qu'ils sont distribués à des casseurs, sont en réalité distribués à beaucoup de gens divers et variés, sous prétexte qu'à un moment donné, dans le mouvement contre la loi travail, ils ont été interpellés pour un contrôle d'identité de 4 heures. Ils sont donc passés pour un contrôle d'identité. Ils ont été, certains, contrôlés, présents sur une manifestation sans même être amenés en contrôle d'identité. Certains, effectivement, sont passés en garde à vue, mais à ce que je sache, passer en garde à vue, tu bénéficies encore de la présomption d'innocence. Et ça, ça a été balayé d'un revers de main, même dans les discussions, dans les discours publics des politiciens. On dit 1000 casseurs ont été arrêtés. Mais tu as envie de répondre au ministre, mais monsieur, ils n'ont pas été jugés. Comment vous pouvez dire, présupposer que c'est des casseurs? Ils ont été arrêtés. Et ce qui se passe sur ce mouvement-là, et ce qui rend les choses beaucoup plus floues, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont été arrêtés de manière totalement arbitraire parce qu'il y a des charges de policiers en civil qui courent dans la foule et attrapent des gens. Puisque l'objectif, c'est à un moment donné, il se passe quelque chose, ils interviennent et ils attrapent des gens. Et du coup, tous les participants, tous les manifestants ont cette sensation un peu désagréable que ça va être eux les suivants pour une raison X ou Y. Et moi, en l'occurrence, les 2 fois où j'ai été arrêté, je le dis sincèrement, c'est le 17 mars devant l'université de Tolbiac, parce qu'on avait occupé l'amphithéâtre de Tolbiac. Les policiers nous expulsent par la force. Ils essayent de nous encager. On était entre 70 et 150 personnes dans cet amphithéâtre. Ils nous expulsent de l'amphithéâtre. Et une fois qu'ils nous ont sortis de l'université, ils nous encagent. C'est ce qu'on appelle la NAS aussi. C'est le fait de nous enfermer le temps de nous emmener tous dans des bus. Et ça, c'est systématique maintenant. C'est une nouvelle pratique, c'est un cordon de police autour de la manifestation qui empêche les gens de partir. Et justement, c'est une pratique du maintien de l'ordre américaine qui s'appelle le catling, qui a été importée depuis 1 an en France et qui est maintenant systématique sur toutes les manifs. C'est-à-dire toute personne présente à une manif est forcément coupable et on va l'emmener pour un contrôle d'identité. Et du coup, nous, on a refusé ce catling et on a poussé les policiers. On n'était pas 3 à le faire, on était genre, je sais pas, peut-être 30, 40 à le faire, dire non, on va pas, non, on s'en va. On a couru dans la rue, et là, je crois, entre 30 et 40 agents de la BAC en civil ont couru après tout le monde. Et on ne savait plus qui était manifestant, qui était agent de la BAC, c'était un truc complètement hallucinant, les gens couraient partout. Et moi, j'ai eu le malheur de m'arrêter parce qu'une fille tombait à côté de moi, brutalisée par un policier, et je me courais vers elle pour essayer de la relever, et pouf ! Pouf, on m'attrape. On m'emmène, ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, c'est un cas quasi similaire. Il y a un conflit à l'avant d'une manif le 24 mars. Et pourquoi je le raconte ? Parce que voilà, c'est un conflit entre manifestants, je précise. Et dans ce conflit, tout d'un coup, au milieu de la foule, apparaissent des policiers en civil, encore une fois, sans aucun brassard police, c'est rien. On les reconnaît uniquement parce qu'à un moment donné, ils décident d'intervenir au milieu de la foule et qu'ils sortent les matraques de leur poche, qui sont des matraques télescopiques. Du coup, on ne peut pas les voir avant, elles font cette taille-là, ils les sortent. Et là, on dit, ah, il y a des policiers, machin. Du coup, effectivement, il y a des gens dans la foule qui, pris sur le vif, frappés par des policiers, mettent des coups de pied, essayent de virer les policiers de la foule. Et il y a plein de gens qui sont là, en espèce de bazar généralisé. Et moi, à ce moment-là, je passais, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pas ceux qui intervenaient qui me sont tombés dessus, mais d'autres policiers en civil derrière moi. Quoi, qui, après, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais en tout cas, m'ont attrapé dans le dos et m'ont emmené aussi. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens dans ces manifestations-là ont été emmenés de cette façon. Donc il y a ces arrestations arbitraires, il y a la manière dont ça se passe. Chaque manif, ce qu'on a ressenti, et je vais essayer de ne pas faire trop long, mais ce qu'on a ressenti sur les différentes manifs, il y en a eu beaucoup, je crois, presque deux, parfois deux par semaine, depuis le mois de mars. Oui, il y en a eu énormément. Il y a eu aussi beaucoup de manifs sauvages, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Et on a eu la sensation qu'à chaque manifestation, il y aurait une surprise, qu'ils allaient tenter un truc nouveau. Donc il y a eu l'interdiction totale, il y a eu le filtrage de tous les manifestants, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées. Les interdictions de manif, elles sont arrivées très tardivement, c'était pas dès le début de la mobilisation, etc. Et du coup, il y a vraiment une angoisse qui s'installe, c'est qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Et là, les deux dernières manifs, elles sont juste hallucinantes, quoi. Hallucinantes, entre la manif totalement interdite, puis finalement autorisée, puis on sait plus trop ce qu'ils font. Voilà, et du coup les gens ont peur, et vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus trop s'ils y vont, s'il faut y aller. Mais...
Alors, si je peux me permettre sans rien dire des dossiers, dans les deux cas, les deux choses qu'il vous a racontées, là, il n'est pas encore jugé. Il est interdit de manif, il n'est pas encore jugé. Il est interdit d'aller à Paris, mais il n'est pas du tout encore jugé. On a des vidéos qui prouvent qu'il n'a rien fait, mais il n'est pas encore jugé.
Voilà. Mais il est interdit, c'est parce quoi? Il va à Paris, c'est parce quoi, il va en prison.
Oui, il risque 6 mois. 6 mois. C'est 6 mois, 6 mois d'emprisonnement, oui. C'est un délit. Non, mais c'est un délit en soi-même de violer l'interdiction de manif. Est un délit. Donc c'est un nouveau procès, on ne parlera pas de la raison pour laquelle il est interdit. On constatera juste qu'il a violé son interdiction et puis le juge donnera une peine. Après, il n'est pas obligé de mettre 6 mois en prison, il n'est pas obligé d'être en mandat de dépôt, il n'est pas obligé de tout ça, mais il peut lui donner une peine qui va jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Alors, le truc que je voulais ajouter, c'est que, évidemment, tout ça, ça arrive en comparution immédiate. C'est des procédures qui sont extrêmement rapides, où c'est extrêmement dur de pouvoir prouver en très peu de temps que non, c'est pas cette personne, qu'elle a rien fait. Il faut pouvoir, après, aller chercher les vidéos de tout le monde. Et là, il y a sur les manifestations parisiennes, il y a une grosse équipe d'avocats et de militants qui font tout un travail de legal team. Il y a la même chose à Lille, il y a la même chose à Rennes, il y a la même chose à Nantes, etc., où les avocats doivent se mobiliser. C'est extrêmement pesant. Enfin, moi, je comprends qu'aujourd'hui, il y a des gens qui hésitent à y aller. Alors qu'il s'agit simplement de manifester contre le droit de travail. Il y a des gens qui hésitent. On entend au procès, nous, on a eu un CGTiste en prison pendant 3 semaines. Pour finalement, à l'audience de renvoi de CI, parce qu'il fallait qu'on ait du temps pour préparer la défense, donc on a demandé des délais, le juge l'a mis en détention provisoire pendant 3 semaines, et finalement, à l'audience, une audience qui a duré 7 heures. Attention, on l'a accusé de violence sur un agent. Il n'avait pas d'IDT, l'agent. Il n'avait rien. Un agent de police, c'est mieux protégé qu'une femme battue aujourd'hui. C'est une évidence énorme. C'est les deux côtés. C'est très très dur de défendre parce qu'il faut aller chercher. Finalement, à l'audience, le truc s'est dégonflé comme pas du tout. Même la procureure a reconnu qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose. Elle a requis du sursis. Alors qu'elle a requis sa détention provisoire pendant 3 semaines. Et que cette personne qui a un militant syndical lambda, qui vient en plus d'un patelin au fin fond de Valenciennes, il s'est retrouvé en prison pendant 3 semaines. C'est très dur. On entend des choses dans les audiences qui sont aberrantes. On entend, monsieur, il avait du liquide physiologique et de l'héroïne dans son sac. C'est le matériel du parfait casseur. On entend ça, quoi. C'est très très dur de défendre. Il y a une charge émotionnelle très très forte sur les manifestations. Et puis, on est soit manifestant, soit casseur. Un manifestant, il ne peut pas casser. Si, à partir du moment où il n'est plus manifestant, il n'est plus là pour le travail, tout ça. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant, à ce point-là, et qui prennent énormément de temps aux militants qui viennent aux audiences, qui encadrent, qui machin, et puis aux avocats, l'équipe parisienne, ils sont sur les genoux, parce qu'ils font que ça depuis le matin. Merci.
Oui, c'était juste pour répondre à ta question aussi et pour témoigner dans ce sens. Je suis militante et des manifs, j'en fais depuis de très nombreuses années. Et alors sur Rodez, mais sur Paris, j'ai eu l'occasion de manifester aussi assez régulièrement sur Paris. Et les deux dernières que j'ai faites, c'était le 14 avril et le 12 mai. Et c'est vrai que le climat de peur, je n'avais jamais connu de manifestations où d'abord j'avais eu autant la trouille et où j'étais avec des militants de mon âge qui avaient des décennies de manifestations derrière eux et qui avaient la trouille. Et la manif du 14 avril, c'était une manif à l'appel des mouvements de jeunesse, donc énormément de lycéens, d'étudiants dans la rue, peu de salariés. Et donc il y avait quand même des militants cégétistes qui étaient présents, des militants solidaires, je suis syndicaliste solidaire, on fermait le cortège, et il y avait un service d'ordre donc de solidaires, bien rodé, bien habitué. C'était une manif qui était assez courte entre la Villette et République. Les forces de l'ordre étaient au contact en permanence. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais connu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en étant en fin de cortège, on les avait partout, les flics, à droite, à gauche, derrière, ils étaient partout. Et tellement au contact que les camarades du service d'ordre nous disaient « il faut avancer ». Il y a des moments où on était à courir sans raison. Donc c'était vraiment, c'est de la provoque, c'était pour créer une tension, et voilà.
Oui, avant on avait la stratégie du reste à distance. Ça n'existe plus là. Et quand il y a deux jets de pierre qui partent du milieu de la foule, c'est un assage de 150 personnes pour en arrêter deux, mais il y en a 148 qui vivent une situation hyper anxiogène, où ils ne savent pas quoi faire, ils ont l'impression de vivre un truc pas normal, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça fait à la fin... c'est vrai, ça fait à la fin des gens qui peuvent péter facilement les plombs. Et ils coupent les cortèges, ils isolent les cortèges dans les autres. C'est assez angoissant.
Juste pour ajouter un truc, il y a aussi quelque chose... même dans les armes utilisées, il y a notamment à Paris, on a vu... une utilisation massive des grenades de désencerclement, avec parfois des jets de 12 grenades en moins de 4 secondes, c'est-à-dire 3 à 4 lanceurs qui jettent une grenade après l'autre dans des foules compactes, à hauteur d'homme. Alors c'est ces grenades qui sont censées rouler sur le sol, et il y a eu un blessé grave dont tout le monde a entendu parler, et il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu beaucoup plus que ça, il y a eu énormément de blessés. Donc usage de grenades, et récemment de canons à eau qu'on n'avait jamais vu à Paris, par exemple. Dans d'autres villes comme Nantes, les gens voient régulièrement, mais en tout cas à Paris, ben, c'est pas. Enfin, vraiment une expérimentation sur la foule.
Est-ce qu'il y a des policiers qui essayent de réagir sur la quantité?
Bah, ils ont devoir de réserve, hein, donc ils ne feront pas. Je sais pas, on essaye parfois de savoir, mais. Ouais, un jour, j'ai entendu quelqu'un, parce que les questions en plus qu'on a dans les gardes à vue, c'est des questions sur les opinions politiques, sur tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la police? Parce que. Ils n'aiment pas ce petit chant que tous les manifestants reprennent en boucle, tout le monde déteste la police, ça déheurte beaucoup. Ils demandent systématiquement qu'est-ce que vous pensez de la police. J'ai entendu quelqu'un répondre intelligemment, parce qu'il était quand même en garde à vue, il dit c'est comme si vous me demandiez ce que je pense d'un marteau, moi je critique la main qui le tient, mais voilà. Et les policiers ont bien aimé cette réponse. Je crois qu'ils en ont aussi eux-mêmes, ils sont un petit peu à bout. Chez Khalil, ils prennent toutes les brigades pour faire le maintien de l'ordre. Il y a plus assez de monde. Donc on voit des gens des stupes encadrer les manifestations. Ils sont, ça, je, J'imagine que ça doit être difficile pour eux entre les trucs, qu'elle ne peut pas perquisitionner de nuit et en même temps, la journée, faire du maintien de l'ordre. Et ils ont, je sais pas comment ils font. J'avoue que ça doit être assez difficile pour eux d'avoir un certain ras-le-bol. Après, il y a des CGTistes dans la police, il y a des syndiqués, ils s'expriment un petit peu. Ils sont pas vachement. On les entend de temps en temps. Mais oui, il y a eu.
Il disait qu'il y avait je ne sais combien d'arrêts de maladie en ce moment.
Oui, il y a beaucoup d'arrêts de maladie en ce moment dans la police. Ils sont. Je pense qu'ils sont le premier. Je ne sais pas, après, si tu penses de ça, il y a aussi.
Ils sont aussi en
France. Je sais qu'à Lille, je vois ce que je vois dans la police, je ne vais pas peut-être le dire. Il y a des gens qui sont aussi contents dans la police.
Oui, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne peux pas avoir une solidarité quelconque ou la peine pour les policiers parce qu'ils sont quand même, enfin, ils agissent en conscience. C'est eux qui choisissent de faire ce métier. Enfin, c'est comme un soldat qui va à l'armée. Il sait qu'il va potentiellement tirer sur des gens. Mais voilà, sans rentrer dans un discours convenu sur la police parce que c'est souvent facile. Il y a aussi les discours et le fait qu'on les conforte dans un esprit un peu caliméro. Un jour, on les traite de héros du pont, on leur dit que c'est l'héros du peuple, et le lendemain... voilà, enfin bref. Et moi, ce que je voudrais dénoncer particulièrement, c'est quand même la communication de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur qui comptabilise de manière frénétique le nombre de policiers blessés. Et moi, je trouve ça insultant parce que c'est des policiers qui ont parfois 15 jours d'ITT. Alors que nous, on a des kyrielles de manifestants, mais c'est de l'ordre de plusieurs milliers maintenant. Et il y a des comptes rendus des équipes médicales, des équipes médiques qu'on appelle souvent les équipes médiques. C'est les groupes de manifestants qui s'auto-organisent pour soigner les blessés. Des blessés, il y en a eu énormément. Il y a eu des mutilations, il y a eu des personnes. Et c'est de l'ordre de plusieurs milliers. Et c'est pas... Moi-même, j'ai eu un gros coup de matraque sur la tête. J'ai eu 3 jours d'ITT. C'était une plaie avec 3 points de suture, c'est 3 jours d'ITT pour se rendre compte. Et la plupart des policiers, ils annoncent 800 policiers blessés depuis le début du mouvement, c'est de l'ordre de 1 jour d'ITT, c'est-à-dire des bleus, quelques hématomes, alors que parmi les blessés, moi j'ai vu des gens avec 23 à 60 jours d'ITT, des gens vraiment avec les crânes ouverts, vraiment des choses très très graves. Et ça, évidemment, la préfecture de police ne communique pas dessus. Du coup, c'est très difficile. De très loin, on peut se dire, oui, enfin, ça a l'air quand même énormément, les policiers ont l'air d'en prendre beaucoup dans la figure. Mais voilà, c'est juste pour rétablir les choses. Quoi.
Juste, moi, je pose la question aussi de savoir qu'est-ce que le citoyen moyen qui vit ici et qui, effectivement, peut lire des journaux, peut voir éventuellement de la télé, écouter de la radio, plusieurs radios possibles. Qu'est-ce que le citoyen lambda, qui a conscience de ce qui se passe, et on est quand même bien là aussi ce soir pour faire prendre conscience au maximum de gens aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que ça veut dire la République ? Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui, moi je crois aussi qu'il faut aller manifester. Il faut continuer à y aller, pas d'autocensure, pas de machin, continuer à y aller. Les policiers, en fait, les 82% des Français disent aimer la police, mais quand les manifestants chantent tout le monde déteste la police, ils détestent le maintien de l'ordre. Mais là, on est bien dans un mouvement qui dépasse un simple mouvement social, on réclame plus de droits, machin. Il y a quand même une contestation réelle de l'ordre. Et en face, il y a un maintien de l'ordre. Ben forcément, la confrontation, elle est là. Et voilà, ben, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer avec les manifestations.
Je ne sais pas si c'est une contestation du maintien de l'ordre ou une contestation de l'ordre social qu'on nous impose.
Oui, c'est ça.
Voilà, on veut nous imposer un modèle social et on veut faire en sorte qu'effectivement les gens ne s'opposent pas à ça. Voilà. Donc c'est un choix politique et donc comment muscler les gens qui s'opposent à cet ordre qu'on nous impose. Donc c'est pas le maintien de l'ordre, c'est vraiment le choix économique et politique qu'on nous impose.
Et juste les techniques policières, maintenant, moi j'ai pu assister justement, alors je ne savais pas que ça s'appelait le Catherine, là, c'était après la mort de Raymond Fraisse à Toulouse où j'ai filé devant Je dis, par rapport aux techniques de maintien de l'ordre, est-ce qu'il y a une législation là-dessus et qu'est-ce qui peut être fait? Parce que j'ai effectivement assisté à Catherine, enfin un parc.
Catherine.
Catherine.
c'est vraiment très choquant. C'est une place est fermée, les gens qui sont dans les magasins sont enfermés dans les magasins. Tout le monde est non, tu ne pars pas rattrapé par les cheveux, tu restes là, tu assumes. Tu étais là, donc c'est vraiment très choquant. Je crois pas que c'est, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça, est-ce qu'il y a une législation là-dessus? Ils peuvent tout faire ou...
Alors, la CEDH a validé. C'est une pratique qui était très utilisée en Grande-Bretagne. Il y a eu des procès en Grande-Bretagne. La CEDH l'a validé. Ceci étant, le défenseur des droits, la Cour européenne des droits de l'homme, l'a validé pour ce qui est de la Grande-Bretagne. Mais il n'est pas interdit de faire mieux que ce que je dis. Européenne des droits de l'homme, et notamment notre défenseur des droits, Jacques Toubon, est venu plusieurs fois condamné. Au nom de la déontologie de la police, le fait d'empêcher de priver de liberté pendant 4 heures 150 personnes pour arrêter 2 personnes qui sont réfugiées au milieu de la foule. Donc il a dénoncé plusieurs fois le fait que le nassage était une pratique qui n'était pas conforme à la déontologie de la police. Mais pour l'instant, on est en risque là, c'est-à-dire on est dans une espèce de. Enfin, le défenseur des droits, c'est du soft rule, quoi. Enfin, c'est...
Il y avait testé à Lyon, ça, on met 20 000 sur les retraites, il y a quelques années déjà.
Oui.
Oui, c'est vrai que c'est, et ça s'est vu de manière épisodique par le passé, mais c'est surtout comme c'est pas encadré juridiquement, ça peut être, c'est vaguement condamné par la défenseur des droits. Mais par exemple, là, sur la dernière manifestation, ils ont encagé entre 70 et 150 personnes à Place de la République qui sortaient d'une réunion à la Bourse du Travail. Alors que la manifestation était à Place d'Italie, et, ce qui est très très loin par rapport à... Et ils les ont engagés pendant 5 heures. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que la législation permet un contrôle d'identité, mais pas au-delà de 4 heures. Au-delà de 4 heures de privation de liberté, entre guillemets, soit tu passes en garde à vue, soit tu libères. Et là, ça leur a permis, en dehors de tout cadre juridique, de priver de liberté de circulation des personnes pendant 5 heures. Donc une heure de plus que ce qui est légal dans le cadre d'un commissariat.
5 heures, quoi, si vous avez envie d'aller aux toilettes, si vous avez... voilà, c'est 5 heures où vous êtes debout sans savoir ce que vous
faites. Et là-dessus, est-ce qu'une plainte peut être déposée?
Oui, c'est compliqué.
Et il y a.
Pour l'instant, depuis le mois de mars, il y a à peu près, il y a eu l'ONU, il y a eu la Ligue des droits de l'homme, il y a eu Amnesty, il y a eu. Qui ont envoyé des rapports, l'ONU c'était sa commission contre la torture, il y a eu l'association ACAT, les chrétiens contre la torture, tous ces gens-là ont déposé des rapports. Les derniers en date, c'est les journalistes de Reporters qui ont fait un truc assez synthétique aussi à partir des éléments de presse. Alors c'est pas directement sur la NAS, hein, mais par contre c'est sur l'hybridation justement des techniques policières qui sont la réadaptation sur le terrain national de ce qui a été parfois interdit à l'étranger par les conventions de Genève, etc. Les gaz lacrymaux, par exemple, il y a plein d'endroits d'état d'opération extérieure où c'est interdit. En ville, on peut. Et la NAS, c'est possible que ça vienne aussi de techniques militaires. En tout cas, ça s'hybride de plus en plus. Mais sur la question plus largement des violences policières, c'est jusqu'à maintenant, il y avait les racisés des banlieues qui s'en occupaient beaucoup, notamment l'urgence de police assassine. Il y a un autre collectif qui s'appelle Desarmo. On connaît aussi les copains qui faisaient le site Copwatch, etc. Donc ça commence à dater un petit peu, mais là, ça s'organise énormément, au maximum en tout cas. Donc il y a des apports de l'étranger aussi. Tout le monde des états de police, mais ça a été un slogan qui est appelé dans tous les journaux européens, incluant pour inverser ce qui se disait à Paris. Donc voilà. Mais donc, comme il y a pas. Enfin, comme il se torche avec le cadre juridique, on a qu'à voir avec la loi 43, avec tout un tas d'autres trucs, enfin, tu veux le savoir maintenant, ben, c'est difficile à répondre qu'est-ce qu'on peut faire contre. Pour l'instant, on peut juste chialer et puis se défendre. Mais voilà, ça s'organise aussi.
On n'a pas d'armes.
Jusqu'à l'ONU, jusqu'à.
C'est eux qui les ont, donc
ils ont
le privilège de faire cette étape.
On est passé le deuxième marche en arme devant la Russie.
Mais la question des recours, elle est toujours compliquée. Hein. Alors, il y a des plaintes qui sont déposées. Les gens qui ont été blessés, ils déposent des plaintes, IGPN, machin. Il y a le secret de l'enquête, donc c'est des plaintes qui traînent. Derrière, il faut saisir le juge d'instruction, puis il y a le secret de l'instruction, etc. C'est que des choses individuelles qui sont faites. Les dossiers collectifs, bah, c'est le défenseur des droits sur la déontologie de la police, mais c'est un truc, il va rendre son rapport en 6 ans, et puis le ministère de l'Intérieur, il dira, je mets dans ma poubelle, et puis voilà. Parce que c'est ce que le ministère de l'Intérieur fait à Calais. Les militants ont fait un dossier génial sur les violences policières, les humiliations, surtout policières, qui ont été faites sur les migrants le dimanche à Bamako. Là, tout le monde en a un peu entendu parler de ce truc-là, où il y avait les migrants. au milieu de la rue avec la musique, un dimanche à Bamako à fond. Ça a été extrêmement bien documenté. Le défenseur des droits, c'était un travail vraiment magnifique qui a été fait par les militants. Du coup, il a pu rendre un rapport en très très peu de temps, je crois qu'en 3 ou 4 mois, il a rendu un rapport accablant aux militants. Il a demandé à que des sanctions soient prises envers certains membres des forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur, il a dit non. Et c'est tout. Il n'a que cette force de proposition-là. C'est pas coercitif du tout. Donc lui, il a insisté, il a dit quoi ? Je fais un deuxième rapport. Et puis le ministère de l'Intérieur, toujours non. Voilà. Et en ce moment, à Calais, je crois que c'est quoi ? C'est 8 brigades de CRS constamment là-bas. Constamment. 8 brigades, ça fait combien déjà ? Ils sont combien ? 70 par brigade ?
Ils ont créé des forces de l'ordre européenne. Est-ce qu'on en a vu
cette fois-ci ? Voilà, vous
coupez
les
villes.
Forces de l'ordre européenne. Non, on ne parlait de ça à un moment. Est-ce qu'on en a vu à Paris ?
En fait, le cadre légal d'intervention de l'Eurojeune Force, la gendarmerie européenne, elle est prévue pour intervenir sur les terrains hors de l'Europe. Et du coup, il semble qu'elle a été utilisée en Grèce à un moment donné. Enfin, des gens en ont parlé, ils l'ont vu intervenir, mais en tout cas, on n'a pas vu. Pour l'instant, ailleurs, en tout cas, moi, j'en ai pas eu connaissance, même si c'est un truc qui m'intéressait aussi, celui-là. Et du coup, pour répondre par rapport aux plaintes qui ont été déposées, il y a eu des plaintes, il y a eu beaucoup de plaintes IGPN là, pendant le mouvement aussi. Et un certain nombre de plaintes IGPN ont tout simplement, tout bonnement été refusées par les flics de l'IGPN. Et certains ont été reçus par les flics de l'IGPN qui les ont très très mal reçus, même des personnes blessées gravement, enfin qui avaient vraiment des étés graves, en leur disant que en fait le meilleur moyen de se protéger c'était de pas aller en manif. Et que quelque part ils avaient cherché quoi.
Et au niveau européen,
on peut. Il n'y a que la Cour européenne des droits de l'homme après.
Mais pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut épuiser toutes les voies en France. Et les voies de recours en France, elles sont longues. Elles sont super longues. Il faut les en cassation. C'est comme ça que ça a été. C'est comme ça depuis le départ. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose qui se prononce très longtemps après. Et puis c'est des condamnations pécuniaires de l'État.
Juste du coup, quand tu as fait la pub au collectif des armes, c'est un collectif que j'ai contribué à créer, on n'a pas beaucoup. Et du coup, voilà, il y a un certain nombre d'informations sur les violences policières qu'on met à disposition sur ce site. C'est un site très simple à retenir, c'est désarmant.net. On essaie de diffuser une brochure, là j'en ai pas ramené, j'en ai qu'une. Mais c'est une brochure qu'on a mis en place justement avec des blessés par la police et qui détaille un petit peu tous les armements de la police et ce qu'ils occasionnent, comment ils fonctionnent, quelle est les blessures qu'ils occasionnent et comment. Il y a aussi des conseils médicaux et juridiques à la fin. Et du coup, cette brochure, vous pouvez le trouver sur le site internet désarmant.net. Et voilà, il y a toute la procédure, tribunal administratif, tribunal pénal, correctionnel, c'est dur.
Et le guide du manifestant, on a le droit d'avoir sur soi.
Figurez-vous qu'il y a plein de guides qui existent, il y a des brochures à destination des manifestants, voilà, on en voit depuis des années. Et j'ai appris, alors j'ai pas obtenu la confirmation de tout ça, mais j'ai appris par quelqu'un du syndicat des avocats de France, donc un syndicat qui est plutôt classé à gauche des avocats, ils ont une procédure pour, je sais plus, incitation à la révolte ou un truc comme ça, à cause de la petite brochure qu'ils avaient éditée sur comment se défendre si vous êtes en garde à vue, machin. Voilà. Oui. Là, il y a déjà des policiers qui m'ont dit quoi ? C'est quoi ça ? Vous trouvez la petite brochure sur un manifestant ? Vous savez quoi ? Ça les a paraissé fou qu'on puisse dire, hein, mais il y a marqué qu'ils peuvent garder le silence. Voilà. On en a aussi, on ne veut pas vous inquiéter, hein, mais.
C'est des gens
qui.
C'est des gens qui.
C'est
festif ce soir.
Ben oui, mais c'est vrai, il y a ça, c'est vrai, il y a ça. Et ça paraît complètement irréel de voir la répression de ce mouvement social-là, elle est énorme, c'est vraiment du jamais vu. Et même les pénalistes, les plus aguerris. Quand l'habitude de pousser, mais c'était quand même, attendez, sur du trois fois rien. Un feu de pneu à Lille, on est en comparution immédiate avec 10 personnes. Un petit feu de pneu de syndicaliste, voilà.
On a le droit de refuser la procuration.
Oui, alors on demande des délais. Mais il y a cette épée de Damoclès de demander des délais, c'est que le juge après se décide si en vous accordant des délais, bah, vous allez les passer libres ou ou à la maison d'arrêt.
Il y a encore des places en prison.
Et ça fait du boulot pour nous, en plus.
Et vous parlez de quel pays, là?
Le
Bangladesh. On
va faire une pétition pour être protégé.
Plus largement sur la question par rapport à la censure, par rapport à ces petits fascicules ou des différents types de petits fascicules, sauf qui peuvent contenir de vraiment méchants, anti-flics, etc., manifestes, et puis en général des trucs complètement neutres, qui sont des trucs élémentaires, parce qu'un des derniers sites internet qui a été touché par, enfin avant les attentats, avant la vague récente de répression, c'était le site IATA à Toulouse, information anti-autoritaire entre Toulouse et environ là je crois, en tout cas ça fait un truc comme ça, IATA. Et ils avaient été interdits pendant un petit moment parce qu'ils avaient donné des instructions justement comment se comporter en manif, comment être solidaire, etc. Et ils avaient fini par trouver l'adresse IP, comme c'est quand même anonymisé, ils font assez gaffe. Mais quand même, ils avaient réussi à trouver avant ça, c'était toujours un libertaire, qui aujourd'hui est assez silencieux. Mais on peut se demander ce qui, dans les prochains temps, très récents, et au fur et à mesure, il y a Tarna qui est hyper visé là, mais ils n'arrivent pas à interdire l'animatin. Pour eux, ils cherchent encore. Il y a Jean Brouillon qui vient de dire un connerie à la radio, pouf, en septembre, on verra s'il passe un an. Tarnac, ça doit être requalifié terroriste ou pas pendant la campagne électorale l'année prochaine, donc ça va être funky aussi. Et après, tout ce qu'on va pouvoir écrire, je voulais savoir si tu avais déjà pisté des requalifications, justement, des espèces de trucs en mode incitation à la révolte, ou des trucs comme ça, enfin, quel cadre juridique il y a, ces conneries-là, quoi.
Il y a toujours une loi qui protège la liberté d'expression. Il paraît qu'il y a 4 millions de personnes qui ont été manifestées pour défendre ça en janvier 2015. Et pourtant, oui, on a un peu vu ça qui est dedans. Et voilà, mais il y a toujours en plus, parce qu'on en a vu des sites internet qui sont vus, garde à vue, 48 heures. Mais sur un simple site internet qui était une sorte de gens qui militaient pour la gratuité des transports et la mutualisation des amendes. Hein, voilà, le crime contre la sûreté de l'État par excellence. Et ils se sont vus, il y a des policiers cagoulés qui ont débarqué chez eux à 6h du matin, qui ont perquisitionné l'appartement, piqué tous les ordinateurs, 48 heures de garde à vue, pour une qualification qui ne tient pas la route, parce que c'était prescrit. C'était prescrit 4 fois, j'ai compté. C'était prescrit 4 fois, une qualification qui ne tient pas la route, en droit de la presse, mais ils devaient le savoir. Mais ils ont le privilège du préalable. Donc ils ont fait ça. Les ordinateurs, ils ne les ont pas vus pendant 2 ans. J'ai mis 2 ans à récupérer les ordinateurs. Ils ont eu un procès pénal, qui évidemment tient le relax, puisqu'il n'y avait absolument rien. Donc moi, leur reprocher sur le fond, on n'était pas dans les bonnes qualifications pénales. Il n'y en avait même pas là-dessus. Parce que appeler les gens à frauder le métro, c'est les inciter à connaître une contravention, et pas un délit. Et la loi sur la presse, elle vise l'incitation à commettre un délit, pas une contravention. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Pour un juriste, c'est assez simple à voir. Ils ont forcément été relaxés, en plus, c'était presque 4 fois, voilà. Mais voilà, on les a juste embêtés avec ça. Ils ont privé du préalable, pourquoi se priver? Donc, voilà, ils ont fait 48 heures de privation de liberté. La petite famille de l'appartement d'en face qui la regarde encore bizarre parce qu'il y a eu des hommes qui ont les comptes débarqués à 6 heures du matin dans l'immeuble. Et voilà, ça pourrait l'être, cette
criminalité. Ça fout un climat de peur.
Bah oui, ça fout un climat de peur pour des trucs qui sont du simple militantisme qui est assez simple sur la gratuité des transports. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Mais il y a ça, ouais. Il y a cette. Alors après, la loi sur la presse, elle nous protège, mais elle ne protège pas des enquêtes, elle ne protège pas des gardes à vue. Dès qu'on soupçonne quelqu'un d'eux, et derrière, on ne peut pas attaquer sur. On n'a pas de moyens.
Je pensais à ça par rapport aux deux. Excusez-moi, je finis juste, hein, mais aux deux journalistes, Tarnis News et puis Street Politics, là, Alexis et puis Gaspard. C'est des Rennais, quoi, là, leur site, mais ils sont beaucoup sur Paris aussi. Et là, maintenant, depuis 23, ils s'étaient fait arrêter préventivement, comme quoi.
Oui.
Et puis, du coup, comme c'est des médias, ils savaient très bien, ils ont des casques marqués presse, ils ont leur caméra de ma boule, et ils savent très bien qu'ils sont pas là avec des bâtons et des caillasses, quoi. Ils ont peut-être un kit médic, mais donc voilà, et ça commence à devenir vraiment des vagues sur aussi des moyens d'expression du mouvement, et ces relais éventuels de support, quoi. Enfin,
oui, des gens qui filmaient, qui se sont vus interdire de manif. Parce qu'il y a aussi cette bataille-là, hein, c'est leurs images contre les nôtres. C'est, moi, il y a, des trucs en manif, ben, on essaie de récolter des photos, des images qui montrent que non, il n'y a pas eu de frappe, non, c'était. Voilà. Et là, oui, voilà. Ben, c'est la vie, leur vidéo-surveillance contre la nôtre.
Oui, mais j'avais une question. Quand les agriculteurs manifestent là avec leurs gros moyens, les agriculteurs ou les routiers, est-ce qu'ils subissent les mêmes pressions?
Non, il y a deux poids, deux mesures, évidemment. On l'a dit des milliers de fois, ça a été répété des milliers de fois, il y a une tolérance qui est beaucoup plus grande vis-à-vis de certains corps de métier quand ils manifestent. Les pompiers, quand ils manifestent, ils ne sont pas dans la
montagne.
Oui, ils ont saccagé un ministère. Mais là, oui, effectivement, il y a moins de poursuites. Après, je sais pas comment le tri est fait, la politique pénale du parquet. C'est impénétrable pour moi. Pourquoi est-ce que, tout à coup, les Goudières... on ne sait jamais, mais c'est vrai que les agriculteurs, les pompiers, les marins-pêcheurs, les routiers... ça aboutit rarement dans les tribunaux, oui. ça aboutit rarement. Et le tien, oui.
Est-ce que le nombre de personnes qui ne supportent plus ou qui ne supportent plus cet état de fait-là s'élargit ou pas? Est-ce que vous voyez en France s'élargir un sentiment de révolte? Parce que, à l'évidence, ça provoque la révolte. Est-ce que ça s'élargit?
Moi, j'ai l'impression que oui, en tout cas. Bah après, c'est un peu difficile, ça fait un peu de parisiano-centré, mais sur les manifs à Paris, il y a un phénomène qu'on a rarement vu auparavant, c'est ce qu'on appelle maintenant, un peu en l'idéalisant, le cortège de tête. C'est-à-dire toutes les personnes qui dépassent les centrales syndicales, qui vont devant et qui disent, maintenant, on défile où on veut, et puis si la police nous empêche de manifester, on les pousse de côté, etc. On est passé... je vais peut-être caricaturer un peu, mais on est passé de 300 lycéens en mars de cette année à 10 000 personnes sur les dernières manifs, et notamment celles qui ont suivi le 1er mai, les deux qui ont suivi le 1er mai, et notamment celle du 14 juin qui a été particulièrement violente. Au-delà de la violence qui a été retenue par tous les médias, ce qu'on n'a pas retenu, c'est qu'il y avait 10 000 personnes dans ce cortège de tête. Et ce cortège de tête, il porte des slogans qui sont, comme on disait tout à l'heure, qui ne sont pas uniquement contre la loi travail, mais contre l'ordre des choses. Vraiment des slogans imaginatifs, et y compris il y a beaucoup de graffitis sur les murs qui disent des choses, il faut les lire. Quoi. Il faut les lire. On retrouve un petit peu des choses qui ont été écrites en mai 68, des choses poétiques, philosophiques, impertinentes, etc. Et vraiment, moi j'ai ressenti ça et j'ai l'impression que ce cortège de tête, il symbolise au moins quelque chose. Et j'ai l'impression que partout ailleurs en France, c'est un peu à cette image aussi. Quoi. Je pense en tout cas sur Nantes et sur Rennes, parce que je me connais un peu plus, je sais que c'est aussi comme ça.
Non, on voit des militants partout qu'on ne voyait pas avant. Et puis surtout, on voit des gens qu'on connaissait peu. Moi, j'ai souvent défendu des militants, un affilié, tout ça. On les voit. Le lien est fait avec. Notamment dans les gardes à vue et les fourgons. Les liens sont faits avec les militants syndicaux de base. Et là-dessus, il y a un truc qui a vraiment été très fertile là-dessus. Sur les AG interlutes, les trucs comme ça, qui sont. C'est un mouvement qui est assez fort et je le vois pas. Peut-être que l'été on va arriver sur une petite base de plus basse intensité, mais j'ai rarement vu une détermination dans le temps qui est aussi forte que celle-là. On a vraiment l'impression qu'il y avait le 49-3, il faut garder cette image en tête, il y avait 6 à 10 000 personnes devant l'Assemblée nationale. C'est depuis combien de temps on n'avait pas vu ça, quoi. Alors après, je sais bien, moi j'arrête pas. Moi je suis lilloise, hein, et puis je suis dans ma ville. Il m'énerve, puisque c'est à Paris que ça se passe, quoi. C'est ce pays to be. C'est, voilà, les révolutions ne sont jamais faites à Lille, quoi, malheureusement. Il y a Rodez, tout ça, mais il se passe vraiment. On a vraiment l'impression qu'il s'est passé quand même, enfin, qu'il se passe encore un truc. Et que c'est quand même porteur. Moi j'aurais du mal à pas avoir beaucoup de bienveillance sur ce qui se passe sur ce mouvement-là. Et je trouve qu'il faut continuer à le soutenir et à l'accompagner. Même si là, on entend, c'est des vacances, hein, plus basse intensité.
Oui, il y a juste une petite information aussi, c'est le 8 et le 9 à Notre-Dame-des-Landes.
Oui.
Et oui, ça c'est quand même une manif de portée nationale qui fait pendant au référendum, sûrement.
Le département de la Bourse, je veux dire, Je voudrais poser la question à monsieur. Est-ce que vous avez l'impression que ça va péter Je veux dire, à l'automne, parce que vu la situation, je ne sais pas ce qui va arriver.
Alors, si j'étais voyant, je mentirais comme les autres voyants et je dirais oui, ça mais c'est très difficile à dire, on est tous en attente en fait. Déjà, est-ce que ça va passer l'été? Déjà, on est arrivé à juillet et on est déjà assez surpris. D'habitude, les mouvements meurent en juin. Quoi. Et là, on est déjà en juillet. Et voilà. Mais je pense que ça va en tout cas prendre beaucoup d'autres formes, ça va faire germer beaucoup d'autres choses. Et à la rentrée, je pense que les gens vont se regarder dans les yeux et vont dire non, non, mais on ne peut pas s'arrêter là, on va faire. Et je pense que les élections de 2017, ça va être une échéance où beaucoup de gens vont vouloir les contester, empêcher qu'elles se passent, beaucoup de choses comme ça.
Bonjour, Madame
Bonjour.
Le
Moi, je me pose souvent la question de comment on peut réagir face à ça. Sans être soi-même dans la violence, c'est-à-dire en reproduisant pas les mêmes schémas. C'est-à-dire que si on répond la même chose, si on ne veut pas de ça, si on ne veut pas être dans cette victime de cette répression, comment la réaction va s'organiser en face et comment ne pas retomber dans les mêmes schémas de violence.
Il y a 1000 modes de contestation après chacun. Inscrire le sien là où il veut.
Naturellement, ça énerve. Ça va appliquer en face forcément la même réaction. Enfin, moi, je vois mon fils, quand il voit ce qui se passe, il a 17 ans, il a envie, il me dit, mais moi, j'aimerais bien taper un flic. Franchement, ça m'emmerde de l'entendre parler comme ça. C'est logique qu'il réagisse comme ça.
Je pense que le problème, c'est effectivement il faut réussir à pas concevoir ça comme un but en soi, en fait. Et ça, c'est extrêmement dangereux de rentrer dans une logique où on conçoit l'altercation avec les policiers comme un but en soi. Malheureusement, je pense que tout élan révolutionnaire se heurte, en fait, au mur de l'État, et à un moment donné, le choix ne se fait pas vraiment dans ces termes-là, en fait. Effectivement, si, je pense que moi, j'aurais tendance à dire à des personnes qui voient ça comme un but. Le but de la manif, c'est d'aller attaquer un policier. Je dirais, c'est pas forcément ça. En tout cas, moi, c'est pas. Même si je peux assumer le fait de me défendre, en fait, parce qu'il s'agit de ça, en fait, il s'agit de se défendre. Je défends pas forcément la volonté de concevoir ça comme une espèce de tout.
Ceux qui donnent des ordres, vous pourrez voir.
Oui.
En fait, jusqu'à maintenant, on a évoqué la notion d'État, mais en fait, la notion d'État, bon, me gêne beaucoup, parce que je considère qu'elle n'existe pas, en fait. Un État, c'est un paravent qui cache des intérêts privés. Et en fait, quand on parle de la force policière, cette force policière, elle ne sert pas à l'État, elle sert à un certain nombre d'individus. Donc, en fait, je crois que si, au lieu de, entre guillemets, de considérer la police comme étant l'ennemi ou l'adversaire principal, je pense qu'on se trompe de problème. Le problème, ce sont, comme on le dit tout à l'heure, ce sont ceux qui nous dirigent. Et il faudrait peut-être, mais je n'ai pas de solution, savoir quelle manière on pourrait détourner un petit peu cette, je veux dire, nos revendications, ou comment les manifester, vis-à-vis des vrais responsables.
Mais je crois qu'il faut rejoindre Nuit Debout, parce que c'est ce à quoi on réfléchit et qu'est-ce qu'on peut faire, comment, et de façon pacifique.
Le temps qu'il fait meilleur qu'en mars.
C'est clair, surtout à Rodez, il pleut moins.
Et sur la question des moyens, par rapport à ta question, avec ton fils, je ne sais pas, mais par contre. Moi, je prends l'exemple des gens qui avaient à la ZAD lancé la campagne Adopte un sous-traitant. Pendant la manifestation du 22 mai, la semaine qui a préparé, il y a 2 ans, hein, en 2014, ça avait été la grande manifestation qui s'était fait passer, où il y avait eu beaucoup de heurts, mais il y avait aussi eu beaucoup de soutien des familles avec des landaux et tout, et ça s'était vraiment très bien passé. Aussi au niveau électoral juste après. Et il y avait un petit malin de la ZAD qui avait
éditer des cartes postales parce que la petite entreprise Biotop commençait à venir expliquer qu'on allait faire les prélèvements des espèces protégées et puis que ça allait bien se passer. Sauf que cette entreprise-là, elle bossait pour Vinci, donc ça s'est vite su. Et donc on a commencé à expliquer aux gens, si vous voulez pas qu'on ait caillasse, etc., c'est pas grave. Lutter à n'importe quel niveau dans votre famille, dans votre travail, voilà, c'est une bataille d'opinion aussi. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'habite en Bretagne, à chaque fois que je suis descendu dans le sud ou je suis allé par Notre-Dame-des-Landes sur l'autoroute avec des gens de Blablacar, donc c'est des gens qu'on ne connaît pas à l'Ouest, des gens se connaissent un peu mieux ailleurs, etc. Et en arrivant sur Temple et Vigneux avant d'arriver sur Nantes, ça, c'était toujours l'endroit où c'était enfin intéressant de parler de la ZAD pour voir comment ça réagissait, même parce qu'on savait que 5 minutes après, ils allaient nous larguer là et puis on pouvait dire ce qu'on voulait à peu près. Ça n'allait pas fâcher tout le monde pendant 200 ans. Donc ça m'avait vachement marqué, je le fais au moins 3 ou 4 fois avant d'arriver en voiture. Et c'est toujours une bataille d'opinion de toute façon. Et le mouvement, effectivement, je suis d'accord avec Cédric, il s'élargit énormément. Et le cortège de tête, moi j'aurais plutôt dit entre 5 000 et 10 000 le 14, mais n'importe comment, c'était vraiment massif et très très chouette. Et évidemment, il y a une majorité de jeunes, mais il n'y avait pas seulement tous les vieux qui étaient avec des t-shirts autour de la tronche et tout quoi, enfin, qui se réveillaient avec des drapeaux FO ou pas. Hein. Voilà, c'était juste bigarré quoi. Enfin, mais, et ça, évidemment, ils ont bien compris, ils se chient dessus, même si vous dites que vous avez peur et qu'il y a des sentiments de peur, les flics, je ne vous explique pas, et puis le calvaire là, ils se chient dessus. Hein. Enfin...
On
n'a
pas été
de changer les choses, on a trois solutions. L'élection, la révolution, avec différents moyens, ou la consommation.
Ça change pas.
Non, il y en a d'autres.
Et la religion.
Si tu achètes plus.
Oui,
non, consommation.
L'élection, ça ne changera rien du tout.
Ça n'est pas pour qui on vote.
C'est peut-être le problème plus que la solution.
Le truc qui m'inquiète là-dedans, c'est je pense que la plupart des gens à qui on va commencer à parler, que c'est bon, c'est quand même inquiétant, et ils vont te répondre « Ouais, t'as rien fait, alors t'as rien à craindre. » Et ce sentiment que tout ça, ça ne concerne que les malfaiteurs, les casseurs, j'ai envie de leur dire, tu sais, les juifs en Allemagne, ils ont cru ça aussi au départ, que ça ne les concerne pas.
Et le fameux poème de Niemöller, je pense que personne ne peut oublier, qui dit, alors je ne le saurais pas exactement, mais qui dit, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste, ils sont venus. On en est un peu là. C'est un peu pour ça qu'on vient aussi en parler loin de chez nous.
Mais oui, mais c'était très fort. On en a parlé tout à l'heure au moment où, en novembre-décembre, on voyait tout ça arriver et puis les gens faisaient leurs courses de Noël aussi. Quoi. Ça peut arriver en même temps. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ma belle famille était polonaise, elle vivait dans un petit village. Ils n'ont pas souffert. Ils ont vécu, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, ils ont travaillé, ils ont suivi leur vie, et le reste ne les intéressait pas, donc ils n'ont pas souffert. Ceux qui souffraient, ceux qui étaient en prison, c'était des gens qui prenaient la parole. C'est sûr, il y a les deux. On ne peut pas. Ouais, aussi un truc auquel je pense souvent, c'est que quand je vois la réaction des juges, vis-à-vis de l'état d'urgence, encore qu'il y en a qui sont exprimés dans la presse, il y en a quelques-uns qui ont rompu leur devoir de réserve en disant ça va trop loin, mais il y a eu peu de décisions favorables aux libertés sur l'état d'urgence, très très peu devant les tribunaux administratifs, mais il y a quand même une pensée qui est très très forte chez les juristes, qui est le légalisme, à partir du moment où c'est l'expression de nos représentants légalement élus, voilà, je pique. C'est ça. En 41, tous les juges, sauf un, ont prêté serment à Vichy. Tous les juges de France, sauf un. Le légalisme, c'est quelque chose qui est très fort. On ne peut pas critiquer la parole qui émane de notre représentation nationale. C'est très fort chez les juristes. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la translation.
Parce qu'en fait, le légalisme, c'est vraiment genre tout ce qui est les lois, etc., en fait, sont dépourvus de toute idéologie. Il n'y a pas d'idée politique derrière, en fait.
On voit pas. Dans cette, c'est un état d'esprit qui était encore plus fort dans les années 30 qu'aujourd'hui, parmi les juristes et les juges et tout ça. C'était dès lors que ça sort de la bouche de la représentation, dès lors que la loi est votée, il n'y a pas de discussion à savoir si c'est une loi de droite ou de gauche, machin, c'est une loi qui s'applique. On ne discute pas, on discute pas ça. Et c'est pour ça qu'ils ont tous prêté serment. Je veux dire, c'est pas les excuser de dire ça. Mais après, on aimerait bien tous être des héros, mais on n'a jamais été confronté à une situation où on aurait pu l'être. Ben, voilà, ben, c'est ce que j'ai après. Mais c'était ça leur état d'esprit, quoi. Et ça, c'est assez fort encore aujourd'hui. On a été un jour dans une audience où je sais pas, on parlait du FNAEG, vous voyez, les empreintes, la prise d'empreintes, j'ai le fichage génétique des militants, un militant fusé, voilà, et le juge a dit, mais la représentation nationale, vous vous en fichez complètement, elle l'a votée, ce truc-là. Vous voyez, c'est, pour un juge, c'est compliqué de dire, ben, moi j'estime que cette loi n'est pas légitime, je conteste cette loi. Et voilà pourquoi, pour des motifs qu'il peut parfaitement comprendre, en plus, le juge, quoi. C'est pas compliqué d'être contre le fichage. Quand on est militant, on ne l'est pas, d'ailleurs, parce que le fichage, au-delà du militant, voilà, le fichage génétique, c'est quelque chose de... C'est normalement du non-codant, mais tout est codant. En Angleterre, il y en a qui découvrent leur famille cachée à cause des fichiers de police. Enfin, voilà, ça va beaucoup plus loin qu'un truc... sert tout ça nos fichiers. Et là-dessus, le juge n'en demandait pas. C'était la représentation nationale l'a voté, donc voilà, à la ligne, on ne discute pas.
Oui, c'était un rapport direct à ce que tu viens de dire. Je voulais revenir un peu sur la violence et sur la peur de la violence que tu exprimais, en fait, ou la non-nécessité de répondre par la violence. Moi, je crois que la plus grande violence... Je ne vais pas développer ton énoncé, qu'on nous impose, c'est celle qu'on nous impose l'État ou les représentants de l'État, etc. Et que quand on voit l'instrumentalisation qui est faite de la violence exercée par les syndicalistes, je pense à la chemise déchirée de ce cadre d'Air France ce dernier, c'est quelques militants de la CGT qui ont été condamnés à de la prison ferme, pareil pour un acte qu'on a qualifié d'extrême. Violence, quand on oppose cette violence-là, qui était bien plus importante dans les mouvements ouvriers depuis des années d'un siècle, et qu'on ne considérait pas ou qu'on ne taxait pas de violence, mais simplement de rapport de force. Et donc, par rapport à la violence qu'on nous impose sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, je pense, moi, qu'il faut recourir à une forme de violence qui reste à définir, mais que si, tu as dit tout à l'heure, la peur... qui commence à venir les gens au cours des manifestations, si leur violence nous impose même la peur aujourd'hui, il faut répondre à cette violence avec des formes ou sous des formes à définir, mais je crois qu'on ne peut pas rester comme ça insensible et moutonner tranquillement en disant qu'il ne faut pas recourir à la violence. Mais si, de tout temps, les rapports de force sont installés dans des formes de violence, et par conséquent, il ne faut pas rejeter la violence systématiquement, comme on a trop tendance à le faire. Si 80% de la population est légaliste, il doit bien en rester 20% qui ne le sont pas. Et 10% de même qui ne le seront plus.
Moi, je peux bien raconter un autre témoignage d'assignation à résidence qui s'est passé juste après les attentats de novembre, mais qui n'ont rien à voir avec le monde militant, mais qui montre l'arbitraire total qu'il y a eu dans ces assignations à résidence. Il y a eu un article dans Le Monde sur ce jeune homme, son prénom avait été changé. C'est un très bon copain à mon fils, qui est tunisien, pas d'origine tunisienne, il est tunisien de nationalité tunisienne. Il a fait ses études post-bac en France, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et Donc il est ingénieur sur Paris. Et peu de temps après, il faisait une demande de nationalité française. Peu de temps après les attentats, il a reçu un courrier émanant de l'État. Voilà, je ne sais pas exactement de quel service, mais de l'État. Il a cru que c'était une réponse par rapport à sa demande de nationalité. Et c'était une assignation à résidence. Donc, il n'a absolument pas compris ce qui se passait. Il a pris un avocat ou une avocate. Et donc, ils ont pu avoir accès à son dossier. On lui reprochait de pratiquer des arts martiaux dans le but de rejoindre le djihad. Il n'a jamais pratiqué d'art martial. De fréquenter assidûment la mosquée, je ne sais plus quelle mosquée de Paris, il ne savait d'ailleurs pas plus que moi le nom de la mosquée, parce que bien qu'étant vaguement croyant, il n'était absolument pas pratiquant. Donc il n'y avait aucun fondement. Alors dans les accusations qui étaient portées contre lui, il a compris en fait qu'il y avait un règlement de compte avec un collègue de l'ancienne boîte où il bossait. Donc c'était de la délation purement et simplement sur des trucs inventés. Alors bon, c'est quelqu'un qui a pu se payer les services d'un avocat. L'histoire lui a coûté pratiquement 2000 euros. Ça s'est terminé dans le sens où il n'y a pas eu de suite. Il a maintenant la nationalité française. Il l'a obtenue relativement peu de temps après. C'est dire aussi qu'il y a... c'était assez ubuesque entre le fait qu'on l'a signé à résidence pour terrorisme et le fait que, parallèlement à ça, d'autres services administratifs étaient en train de lui donner la nationalité française. Mais ce que tu racontais tout à l'heure sur... Alors, il ne devait signer que 2 fois par jour, je dis que, parce qu'effectivement, ça peut être bien pire. Et il avait réussi, avec son commissariat, à aménager les horaires pour pouvoir signer un petit peu plus tard le soir, ce qui lui a permis de ne pas dire à son employeur ce qui se passait, parce que bon, il faut quand même imaginer, c'est un jeune garçon qui ne l'a absolument pas dit à son entourage. Il l'a dit à mon fils parce que c'est un très très bon copain, parce que sa première réaction, ça a été quand même une réaction de honte, et de lui dire aussi, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça m'arrive en France.
Ça me rappelle quand on est allé à l'audience au théâtre de Sergi Pontoise pour mon frère, il y avait aussi une personne qui passait juste avant mon frère pour une assignation à résidence et qui, je ne sais plus de quelle origine il était, mais il était nord-africain. Et ça faisait sept ans qu'il travaillait à la RATP comme agent de sécurité de la RATP. Et dans les notes blanches, c'était écrit que, ayant été formé à l'usage d'une arme, il pouvait potentiellement servir d'armurier au djihad. Et ça m'avait surpris, et lui, sa défense m'avait d'autant plus marqué, même si on n'est pas resté longtemps et que j'ai vu juste des bribes de cette histoire-là, mais lui, il s'est levé à un moment donné pour expliquer son affaire, et il a parlé sur une manière extrêmement émotionnelle, en fait, et il a dit au juge... Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez détruit ma vie, que de maintenant je ne travaille plus à la RATP, que maintenant quand je sors de chez moi, c'est toute ma famille qui a été humiliée parce qu'on me regarde comme un djihadiste. Et lui, il était encore assigné, c'est-à-dire qu'il était en train d'essayer de... C'est-à-dire que non seulement, je ne sais pas si le tribunal a cassé son assignation, mais en tout cas, devant la juge, il disait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez commettre et de ce que ça peut avoir comme impact. Moi, ça fait des années que je travaille à la RATP comme agent de sécurité. Et aujourd'hui, on me dit que sous prétexte que je porte une arme, je pourrais... Et parce que, effectivement, je suis musulman, et il expliquait qu'il n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Et c'est vraiment... Je crois que beaucoup d'affaires sont vraiment comme ça. C'est des suppositions à partir d'éléments de mosquées qu'on fréquente, ou que des amis d'amis fréquentent. Et je crois que dans son affaire à lui, ils évoquaient le fait qu'il avait des liens plus ou moins distanciés avec Koulibaly, mais par le biais de la mosquée. Enfin, c'était...
Oui, alors en ce qui concerne ce genre justement de choses, moi j'apporte le témoignage. Mon fils qui était chez moi un jour a reçu un coup de téléphone de la gendarmerie d'Auvillard qui lui demandait si ses voisins, qui visiblement étaient originaires d'Afrique du Nord, avaient un comportement normal. Alors on voit bien que ça ne suffit pas de dire « moi j'ai rien à me reprocher, je ne risque rien ». Personne n'est à l'abri. On est encore plus en danger, même en état d'urgence.
On ne peut pas se défendre contre des renseignements généraux. Il n'y a pas moyen. On ne peut pas, parce qu'on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas...
énorme, parce qu'on avait déjà un réseau constitué de militants qui devaient descendre dans la rue pour le faire. La plupart des gens étaient totalement isolés, n'avaient guère que leur avocat pour porter une parole de quelqu'un. Et encore, on n'avait pas forcément.
Qui c'est qui paye la porte ?
Il y en a qui ont beaucoup de mal parce que rembourser les enfants qui ont été
défoncés. Il y en a qui n'ont même pas les moyens de perquisition, donc ils ne peuvent même pas prouver.
Donc, je crois qu'on est au bout de notre soirée. De toute façon, bon, je crois qu'on a appris. On a mis bien sûr les pieds sur terre là ce soir. On a appris beaucoup de choses que dans nos provinces, bon, on ne sait pas trop. Il y en a certains qui savent, mais. Et je crois que la réponse à la question que j'avais posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai, c'est continuer à les manifester. Et on a la chance de ne pas avoir trop peur dans nos provinces. On va essayer d'éviter de continuer sur le temps. Et Toulouse, c'est pas loin, effectivement.
Et Nuit Debout est toujours présent.
Nuit Debout, voilà. Donc, les rendez-vous Nuit Debout, il y a un jeudi.
Lundi, mercredi, jeudi.
Donc, à partir de 18h30, parce que
vous pouvez vérifier les rendez-vous sur la page Facebook.
Ouais, à part que des fois on n'aime pas trop être sur Facebook non, parce qu'on sait que c'est aussi le big data. Visite simple, visite, voilà. D'accord.
Sur Google et tu lui fais
Nuit Debout Solaire. Ah, Google, non. Oui, Lilo, DuckDuckGo, tout ça, ça permet quand même de contourner les gens qui ne paient pas d'impôts en France. Et donc, et puis aussi, on m'a dit qu'il était possible d'ouvrir sur certains gestionnaires d'Internet, qu'il était possible d'ouvrir des fenêtres privées. Et en ouvrant des fenêtres privées, normalement, l'IP n'est pas enregistré. Alors bon, il y a des tas de petits trucs comme ça, on avait parlé au moment où on avait fait le jeudi en question sur Internet aussi. Oui. Je ne peux pas vous présenter cela de manière complète, parce que c'est vrai que c'est complète, mais il y a deux niveaux. Il y a la protection de tous les jours, de celui qui ne veut pas qu'on sache trop ce qui se passe. Donc vous avez dans certains navigateurs, moi je n'utilise que Firefox, hein, donc je ne pourrais pas vous parler des autres, mais vous avez effectivement donc une fenêtre sur laquelle donc, vous pouvez soi-disant donc, faire ce que vous souhaitez d'une manière un peu plus confidentielle. Néanmoins, si vous ne passez pas, parce que c'est ça le piège, si vous ne passez pas par ce que l'on appelle un proxy, votre fournisseur d'Internet, lui stocke de toute manière donc, ce que vous faites. Donc en fait, l'idée, c'est d'ouvrir ce que vous avez appelé donc, une fenêtre privée, et immédiatement chercher un proxy, qui est toujours à l'étranger, etc. Et à partir de là, vous allez sur le site. Ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, il y a bien sûr des niveaux plus sophistiqués, tels que les réseaux Tor.
C'est juste pour dire qu'effectivement, ça me paraît plus compliqué que Tor, qui est un truc qui peut s'installer directement depuis n'importe quel moteur de recherche. On peut installer Tor sur son ordinateur. Après, il y a juste à cliquer sur l'icône et on passe de fait par un proxy et des serveurs sécurisés. C'est une sécurité que beaucoup de gens utilisent dans Tor. Tor. Installer Tor.
Tu mets Tor, t'as rien.
No, 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 no.